16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, je suis Mathieu Noël et je suis enchanté de vous retrouver pour 2 heures d'histoire décomplexée. À mes côtés, bon sang. Mais non, mais je n'ai pas la berlue. Il est là.
Un beau jeune homme bien bâti.
Comme il aime à se décrire lui-même. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu, mais c'est pas moi qui me décris comme ça. Moi aussi je suis ravi, voyez-vous, de vous retrouver pour 2 heures qui s'annoncent à la fois, une fois de plus, palpitantes, autour de 3 personnages hauts en couleur. Ils ne se sont jamais croisés.
Normalement non.
Et pourtant, ils avaient un point en commun.
Oui Stéphane, ils avaient...
L'amour du risque.
Nous parlons aujourd'hui dans Historiquement Vôtre de ces inventeurs qui sont morts de leur invention. Comme d'habitude Stéphane, vous nous présenterez avec sérieux les destins bouleversants de 2 de ces inventeurs malheureux.
Oui, on commencera par Thomas Andrews, l'architecte du Titanic. Qui, oui, était à bord de la traversée... inaugural.
Mauvaise idée. Oui, c'est lui qui jouait à la fin, à l'orchestre, il a joué jusqu'au bout. Oui. Hein.
Et puis, je vous raconterai l'histoire d'une des plus grandes chercheuses françaises de tous les temps. Une chercheuse qui trouve, mais qui finira par en mourir. Marie Curie et ses expériences sur la radioactivité. Une fois que nous aurons brossé ces 2 portraits rigoureux, Mathieu pourra s'en donner à cœur joie sur notre 3e personnage du jour, j'allais dire le contemporain de l'étape. Aujourd'hui, Mathieu, quelle victime vous avez choisi ?
Alors, victime, c'est hélas le mot, Stéphane, puisqu'en effet, vous voyez ce qu'est un Segway ?
Oui, mais j'arrive pas à monter dessus, moi.
Oui, très peu de gens arrivent. Un Segway, c'est un petit véhicule électrique à roulette, sorte de trottinette à grosses roues, si vous voulez. Eh bien, comment vous annoncez ça sans trop vous peiner, Stéphane ? Un beau matin, le patron de Segway a voulu essayer le dernier modèle de sa marque. Le souci, c'est qu'il vivait dans une somptueuse villa perchée au bord d'une falaise.
Oui.
Alors, pour siroter des spritz à l'apéro en regardant la mer, vivre au bord d'une falaise, c'est génial, mais pour essayer un Segway... C'est pas idéal. Je vous raconte le destin à tout point de vue vertigineux de Jimmy Hesselden.
Vous l'avez compris, chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, on revisite l'histoire, toute l'histoire, la grande, la petite, la moyenne, avec notre équipe de chroniqueurs historiquement bien informés. Bonjour Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour.
Clémentine, vous nous faites pénétrer avec malice dans l'intimité de l'histoire à la découverte des petits secrets des grands de ce monde.
Et oui Stéphane, et comme aujourd'hui vous allez nous embarquer à bord du Titanic, eh bien j'ai choisi d'évoquer ces jeunes enfants sans parents qui ont été sauvés au lendemain du naufrage. On les récupère, mais ils sont orphelins. Et parmi ces bébés, Momon et Lolo, les orphelins de l'abîme.
Oh,
il est tellement ému. Le mec est tellement ému qu'il ne peut pas enchaîner derrière. C'est pas possible.
Mais c'est une histoire super émouvante.
Hein.
Vous allez voir. Vous allez voir parce que parmi l'un d'entre eux, il y a l'un des derniers survivants du Titanic qui était français. Voilà. Alors, parce que ça vous fait un peu
monsieur,
plus plaisir.
Ah ben monsieur, voilà,
mais moi, je suis authentiquement ému, Stéphane.
Oui. Momon et Momon sont sur un bateau. Quoi.
Momon et Lolo, voilà.
C'est tout.
Alors lui, salut tout. C'est Olivier Pouls, notre spécialiste de la bonne bouffe. Avec lui, nous dégustons l'histoire de la cuisine. Quel plat vous avez fait mijoter ?
J'ai cherché un chef qui serait mort de ses inventions, de ses recettes, mais j'en ai pas trouvé. Et puis sinon, je vous la donnerais pas en tout état de cause. Donc peut-être qu'on en mangeait d'ailleurs sur le Titanic, les fameux cupcakes. Mais d'où viennent-ils ?
Ah oui, c'est vrai, qui a inventé ça ?
Vous en mangez des cupcakes, Stéphane ?
Non,
je vous
jamais.
Vois bien. Ah, jamais ?
J'ai passé l'âge.
Mais c'est tea time.
Mais les cupcakes, c'est pas pour les enfants.
Ah bon ?
C'est joli, les enfants adorent, c'est coloré, mais les adultes peuvent manger des cupcakes. Vous avez des très bons magasins de cupcakes à Paris. Je vous emmènerai, Stéphane. On a tant de choses à découvrir le dimanche après-midi.
Incroyable. Et puis, avec nous aussi,
pardon,
vous allez
le
présenter.
Il est là aussi, mais oui, celui qui vérifie toujours que la caméra du studio est bien braquée sur lui avant d'entamer sa chronique. Car comme il le dit lui-même avec cette décomplexion propre aux gens de télé...
J'aimerais bien qu'on me voie.
Bonjour David Castello-Lopez, rassurez-vous, on vous voit. La caméra est braquée sur vous.
Vous savez, si j'ai envie qu'on me voie, c'est plutôt pour les auditeurs. Parce que regardez la régularité de ce visage, l'infini du bleu de mes yeux. Voilà, c'est pour les auditeurs avant tout.
Alors David, chaque jour, vous nous entraînez aux origines d'une pratique ou d'un objet aujourd'hui.
Tout à fait, alors aujourd'hui c'est les rires enregistrés.
Ah c'est ça, vient d'où ça ?
Eh bien on va le savoir bientôt.
Il y en a plein cette émission d'ailleurs.
Il y en a beaucoup, on pourrait en lancer. N'oubliez pas chers auditeurs, écoutez-le, il est bien fait celui-là, on dirait Clémentine. Eh non, c'est enregistré. N'oubliez pas chers auditeurs, Historiquement Vôtre, c'est aussi l'émission qui vous donne la possibilité de tester votre culture G en histoire en la comparant à celle pas toujours fameuse de Stéphane Bern. Burn to be alive, ce quiz dont Stéphane, lassé de perdre, commence même à contester la légitimité. Ça sera vers 5h-10. Mais commençons tout de suite avec vous.
Excusez-moi, est-ce qu'on peut revenir quand même sur ce phénomène ?
Quel phénomène ? Le fait que vous perdiez ?
Oui, non, c'est
un phénomène naturel.
Vous me faites venir à vos côtés pour raconter des histoires. Et après, dans la même émission, vous contestez ma légitimité
en
histoire.
Exactement, vous avez... il a compris notre duo.
Vous vous tirez une balle dans le pied.
On est le 17 septembre, Stéphane Bern vient de comprendre le concept de notre émission.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui, Stéphane, nous raconte l'histoire.
Sans se la raconter.
Une bonne réponse, pas comme dans le quiz.
Non, non.
Oui.
Mais arrêtez,
oui.
C'est une légende
piégée d'entrée. Oui. Oh, je suis malicieux. Oui. Oui, historiquement vôtre démarre comme d'habitude par ce retour souvent cocasse aux origines d'un objet ou d'une coutume. David Castello-Lopez, quand il s'agit de remonter le temps, vous êtes l'homme de la situation.
Ah ben je crois, oui.
modeste avec
modeste, ça. Pour les besoins de cette chronique, j'ai fait le top dans ma tête, le top 3 des choses qui se sont ringardisées depuis mon adolescence. Je dirais qu'en numéro 1, il y a le rock. Le rock, c'était très,
je vous
très, interdis très
de dire ça, David.
Mais malheureusement, mais moi, je suis comme vous, vous voyez. Mais je suis obligé de le remarquer. Hein. Aujourd'hui, ce qui est cool, c'est le rap, c'est
oui,
plus
c'est
le
vrai,
rock. Numéro 2, je dirais qu'il y a les pantalons en lin blanc un peu amples. Voyez,
ça, personne ne porte ça encore.
Mais voilà, mais ça s'est complètement ringardisé. Ah, mais il y a un moment, je me souviens, c'est
si même Stéphane Bern ne le porte plus, c'est vraiment très très ringard.
Et en numéro 3, je dirais, pour les besoins de cette chronique, je dirais qu'il y a quand même les rires enregistrés. Hein.
Ça se fait plus trop, ça.
Ouais, les rires enregistrés aujourd'hui, c'est ridicule. Au point qu'ils sont maintenant souvent utilisés au second degré, par exemple, pour souligner qu'une blague n'est pas bonne, mais au contraire très très mauvaise. Par exemple, vous savez, moi je m'appelle David Castello-Lopez, mais quand j'étais enfant, j'étais un petit peu gros. Et mes camarades, ils m'avaient surnommé David Castello-Lobèze.
On sent que ça vous fait mal encore.
Oui, et on sent que vous riez de bon cœur.
Oh, voilà. Moi, j'aurais fait partie de vos petits copains, là.
Très grande cruauté, quand même. mais tout de même, je garde une petite nostalgie des rires enregistrés, de leur maladresse, de leur côté un petit peu triste aussi. Et du coup, j'ai eu envie de savoir d'où ils venaient. Alors, je pense que vous le savez comme moi, faire des blagues devant un public, c'est une des choses les plus impardonnables qui soient. C'est beaucoup plus difficile que de monter sur scène pour dire des choses tragiques. Oui, parce qu'une pièce tragique, elle est censée émouvoir les gens. Or, être ému, ça fait pas de bruit. Si en tant que comédien, vous ratez votre effet tragique,
oui,
personne s'en rend compte. Mais quand vous faites une blague devant 1000 personnes et que cette blague, elle est suivie d'un silence absolu, eh bien, non seulement vous savez tout de suite que vous avez raté votre blague, mais la salle dans son ensemble sait que vous l'avez ratée. Et vous êtes gêné. Et la salle est gênée que vous soyez gêné. Et vous êtes gêné que la salle soit gênée que vous soyez gêné. Et ça fait comme une sorte de vortex de malaise
mais
complètement affreux.
On mettait pas des rires enregistrés dans des spectacles quand
Attendez.
Même. Attendez. Non.
Mais si vous vous assurez que certaines personnes rigolent, même de façon artificielle, parce que vous les avez payés,
eh bien
vous réglez une partie du problème puisque les gens dans le public, y compris ceux qui rigolent pas, ne vont pas vivre le malaise qui suit le bide. Et donc déjà au XVIe siècle, on sait qu'il y avait des membres du public qui étaient payés dans devant les comédies de Shakespeare pour avoir certaines réactions et aussi les encourager chez les autres. Le truc, c'est que avant l'invention de la télévision, les blagues, depuis Aristophane, c'était une expérience qu'on faisait en commun. Quand on riait avec d'autres gens avec nous à côté, hein, qui riaient aussi. Mais avec les débuts de la télévision, tout à coup, on se retrouve à écouter des blagues tout seul chez soi. Et ça, ça fait un peu peur à l'époque aux producteurs de télévision américains. Alors ils ont l'idée d'enregistrer les réactions du public et de les intégrer aux émissions pour que chez eux, les gens, tout seuls, aient l'impression qu'ils étaient un peu au théâtre avec d'autres gens qui riaient en même temps qu'eux. Et une des premières personnes qui faisait ça, c'était un ingénieur du son qui s'appelait Charles Douglas dans les années 50. Mais le truc, c'est que Charles, il était un petit peu agacé parce qu'il trouvait que les audiences réagissaient pas assez bien aux blagues. C'est-à-dire que les gens riaient pas assez fort à son goût, ou alors trop fort, ou alors trop longtemps, ou pas assez longtemps. Et là, il s'est dit, vas-y, c'est relou, tu sais quoi, je vais enregistrer des rires individuels de plein de gens, des longs, des courts, des légers, des forts, des fous rires, des rires d'enfants, des rires de vieilles dames, et je les mettrai dans le montage a posteriori. Et comme ça, on pourra faire ce qu'on veut. Et Charles, pour se faciliter la tâche au montage, il a créé une machine qu'il a appelée la Laugh Box. Hein, laugh, en anglais, ça veut dire rire. Donc, c'est la boîte à rire. Et c'était une sorte d'orgue avec des touches. Et chaque touche actionnait une bande magnétique sur laquelle était enregistré un rire. La première sitcom à les utiliser, c'était une sitcom que tout le monde a oubliée. Elle a duré 6 mois à la télévision américaine. Elle s'appelait le Hank McCoon Show en 1950. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, alors, ça a beau être ringard, eh bien, on continue quand même un petit peu à utiliser les rires enregistrés. Et pourquoi on les utilise ? Eh bien, parce que quand même, ça marche.
Il y a une étude scientifique sérieuse qui a été faite sur la question. Les chercheurs, en gros, ils ont pris des mauvaises blagues, hein, du genre David Castello-Lopez. Ils les ont fait écouter à deux groupes de gens. Le premier groupe avait des rires enregistrés et l'autre pas. Eh bien, le groupe qui avait des rires enregistrés, ils jugeaient en moyenne que les blagues qu'on lui avait servi au groupe, eh bien, elles étaient plus drôles que celles de l'autre groupe.
Il y a un baromètre très simple pour vérifier ça. Et je crois que certains petits malins sont amusés à le faire sur YouTube. Vous regardez un épisode de Friends sans les rires enregistrés. Friends, c'est quand même excellent, c'est hyper bien écrit.
Ouais.
Parfois, on rentre pas dedans, enfin, du tout. C'est vraiment étonnant.
Il y a des malaises, même.
Exactement.
En fait, c'est hyper genre, wow, en fait, c'est vraiment pas drôle.
Ouais.
Ils ont fait la même chose avec Mr. Bean, et c'est aussi genre, qui est ce type?
Oui, voilà, ça fait peur.
Il y a autre chose qui, moi, m'a toujours agacé, c'est les rires dans les émissions de divertissement. Vous savez, le chauffeur de salle qui vous dit à quel moment il faut faire oh.
Surtout le oh, parce qu'il y a des vannes qui sont borderline, donc il faut faire oh.
Oui, c'est ça. Et à quel moment il faut applaudir? C'est insupportable. Laissez les gens faire comme ils veulent. Quoi.
Oui.
Laissez les gens faire comme ils veulent. Un beau message de liberté, Stéphane Bern. Je vous reconnais bien là.
En tout cas, c'est passionnant.
David, c'était passionnant. David, comme d'habitude.
Merci beaucoup.
Oui.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez historiquement votre l'histoire, le sourire aux lèvres. Enfin, pour le moment.
Le sourire risque de partir avec cette histoire.
Ça va nous faire marrer. Deux heures pour découvrir trois personnages qu'a priori rien ne relie. Et pourtant.
Oui, Stéphane, a priori, quel rapport entre Marie Curie, le patron millionnaire de Segway, Jimmy Heseldon et Thomas Andrews, l'architecte du Titanic? Aucun. Eh bien si, ils sont tous morts de leur invention, même si certains, comme ce coquinou de Thomas Andrews, ne sont pas morts tout seuls. C'est son histoire que vous nous racontez à présent, Stéphane.
Historiquement vôtre. Le récit.
Dans la famille des personnages morts de leurs inventions, voici l'Irlandais Thomas Andrews, celui que l'on considère comme le père de l'insubmersible Titanic. L'architecte à qui l'on doit ce paquebot mythique, le plus gros navire construit à l'époque, 269 mètres de long, 53 mètres de haut, un navire de luxe avec ses aménagements extraordinaires. Salon de lecture, théâtre, piscine, cour de tennis, bain turc, mini-golf. Thomas Andrews est donc, au sein des chantiers navals Harland & Wolff de Belfast, l'architecte. Pas très reluisant comme titre quand on connaît le destin tragique du paquebot et de 1635 de ses 2200 passagers, victimes d'une malencontreuse rencontre avec un iceberg la nuit du 14 au 15 avril 1912 dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Ce Thomas Andrews, vous le connaissez peut-être sous les traits de son interprète dans le film Titanic de James Cameron, l'acteur canadien Victor Garber.
Mais là, aujourd'hui, faites attention Stéphane, parce qu'autant, quand vous me parlez de Louis VI le Gros, j'y connais rien, mais là, Titanic, je l'ai vu 6 fois en salle à l'époque.
On vous avait...
Forcé du tout.
Non,
j'ai essayé de pêcher une meuf, je suis allé 6 fois de suite, avec d'autres meufs différentes. Mon Dieu, je me trahis. J'espère qu'elle n'écoute pas. Enchaînez.
Dans le film, c'est un personnage très sympathique.
Ah oui.
À l'inverse des autres passagers de première classe, il ne traite pas le jeune et pauvre Jack Dawson, joué par Leonardo DiCaprio, comme un moins que rien. Durant le naufrage, il fait également preuve d'un grand altruisme en offrant à la belle Rose de Whitaker, sous les traits de Kate Winslet, son gilet de sauvetage. Quelle responsabilité ce directeur général des chantiers responsable des aménagements ainsi que de la sécurité du Titanic porte-t-il dans ce naufrage? La manière bienveillante dont est dépeint le personnage de Thomas Andrews dans le film est sûrement un choix délibéré du réalisateur James Cameron. Car en effet, si l'on a longtemps pointé du doigt la qualité de construction du navire comme la cause de l'accident, il est désormais établi que le Titanic était l'un des navires les plus fiables qui n'ait jamais été construit à l'époque. Il pouvait d'ailleurs, car sa construction a coûté 1,5 million de livres, une fortune pour le début du XXe siècle. Thomas Andrews et ses équipes l'avaient conçu selon des plans révolutionnaires. Coque à double fond, compartiment étanche, des caractéristiques qui le rendaient théoriquement, je dis bien théoriquement, insubmersible. Thomas Andrews avait de l'expérience en matière de grands paquebots. C'était certes encore un jeune architecte naval, 38 ans, en 1912, mais il avait, en plus de 20 ans, brillamment gravi tous les échelons de la hiérarchie les uns après les autres. Il avait notamment participé à la construction des Big Four, les quatre grands de la White Star, les Celtic, Cedric, Baltic, Adriatic. Mais le projet du Titanic était sans compter...
Encore un Nick, ils avaient un problème
avec
ça. Oui,
parce que j'essaye de mettre le même accent.
Ah ouais, mais
le projet du Titanic était sans conteste le plus ambitieux sur lequel il avait travaillé.
Bah dans ce cas, à qui la faute? Il y a quelqu'un qui est responsable.
Mathieu, la théorie que l'on retient aujourd'hui, celle qui ressort de la recherche historique et des enquêtes officielles menées par la Grande-Bretagne et les États-Unis, c'est que l'on doit le drame à un enchaînement de plusieurs événements. Des circonstances défavorables d'abord, comme la dérive exceptionnelle des icebergs cet hiver-là, et à une erreur de jugement aussi. 37 secondes avant l'impact, le premier officier du Titanic, le lieutenant Murdoch, ordonne de barrer à gauche pour éviter l'iceberg. Il ordonne également de faire machine arrière pour freiner la course du paquebot. Erreur. Cette manœuvre, semble-t-il, n'était pas la plus indiquée. On sait aujourd'hui qu'il aurait plutôt fallu accélérer pour aider les 46 000 tonnes du navire à tourner.
C'est bête comme chou, hein, qu'est-ce qu'il foutait
à ne pas tourner du tout.
Mais oui.
Et oui, une collusion de face n'aurait causé d'inondation que dans le compartiment avant. Or, la présence de 16 compartiments étanches dans la coque permettait au navire de rester à flot, même dans ce cas où 4 d'entre eux seraient inondés, vous voyez. Toutefois, de l'avis général, la plus grosse responsabilité incombe au commandant du navire, Edward John Smith. Lui a carrément fait preuve de négligence coupable. De nombreux bateaux sur zone les avaient prévenus de la présence d'icebergs. Il n'en a pas tenu compte et il n'a pas ralenti la vitesse. Voilà donc les circonstances de l'accident. Mais qu'en est-il des moyens d'évacuation? Thomas Andrews avait-il une responsabilité dans le nombre insuffisant de canots de sauvetage à bord? Le Titanic n'en comptait que 20, suffisamment pour 1100 personnes, soit la moitié des passagers présents à bord. Thomas Andrews, est-il vraiment blanc comme neige? J'ai une anecdote révélatrice à vous confier à ce sujet.
Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Alors, mon cher Stéphane, une fois de plus, vous êtes interrompu dans votre récit au moment où le suspense est à son comble, même si, sans spoiler les gens, je crois bien qu'on connaît la fin.
Divulgâcher, en
fait. Sans divulgâcher, je crois que l'architecte Thomas Andrews, dont on parle cet après-midi, a-t-il une part, oui ou non, de responsabilité dans le naufrage du Titanic?
Après le choc de la tragédie, il y a eu une véritable campagne de dénonciation contre les dirigeants de la White Star Line et contre l'armateur du Titanic. C'est-à-dire contre le président des chantiers navals Harlands & Wolff pour qui travaillait Thomas Andrews. Thomas Andrews n'accède au poste de directeur des chantiers qu'en 1910. La construction du Titanic avait alors déjà débuté. Son prédécesseur, un certain Alexander Carlyle, a démissionné de ses fonctions. Certaines sources racontent que la raison de ce départ aurait été le nombre insuffisant de canots sur les deux navires alors en construction sur le chantier, l'Olympique et le Titanic. Si cela s'avérait vrai, le fait même que Thomas Andrews prenne sa suite le rendrait un peu responsable de la tragédie.
Complètement même.
À sa décharge, il faut préciser que le nombre de canots sur le Titanic était suffisant selon la législation en vigueur en Grande-Bretagne.
La législation prévoyait de laisser mourir les troisièmes classes et de secourir les premières classes.
Non, mais il suffisait de 20 canots, je vous l'ai dit, pour 100,
bah oui, 1100 personnes. Mais c'était pas suffisant.
Une législation qui sera modifiée juste après le drame, d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, le pauvre Andrews a payé très cher sa souplesse sur la question des canots. Sûrement se sentait-il coupable, car des témoignages racontent qu'il n'a même pas tenté de sauver sa peau pendant le naufrage. Un survivant du Titanic, un steward du nom de John Stewart, ça ne s'invente pas, a raconté l'avoir aperçu pour la dernière fois vers 2h10 du matin dans le fumoir. Il se tenait devant la cheminée à contempler un tableau. On peut tout à fait imaginer l'échange entre les deux hommes. En mélangeant faits avérés et un peu d'imagination, Mathieu, on le tente?
Bon, si vous voulez, moi, vous savez...
Vous faites l'architecte Thomas Andrews et moi, je fais John Stewart. Monsieur Andrews, que faites-vous là? Nous coulons?
Merci, John, j'avais remarqué. Le plancher est incliné d'au moins 10 degrés. J'ai su dès le départ que nous allions couler. Depuis que j'ai fait inspecter le bateau après la collision, il y avait trop de compartiments inondés. Avec 4 compartiments, nous aurions pu rester à flot, mais pas avec 6. Pas avec 6. Si seulement ce Murdoch n'avait pas viré de bord.
Que dites-vous? Je n'entends rien avec ce foutu orchestre qui joue sans discontinuer depuis minuit. Allons, venez avec moi, nous pouvons encore tenter notre chance et rattraper un canot. La plupart sont à moitié pleins.
Non, merci, mon cher John. Je préfère rester ici à contempler ce tableau de Norman Wilkinson. Ne le trouvez-vous pas ironique dans notre situation? Il se nomme l'approche du port de Plymouth et dire que nous devions accoster port de New York dans 2 jours.
Il était 2h10 du matin. Une dizaine de minutes plus tard, le Titanic disparaissait.
Europe 1,
historiquement vôtre.
Pour parler du Titanic et de son architecte Thomas Andrews qui était aussi à bord le jour du naufrage, on l'a dit, nous avons une invitée qui tombe à pic. Bonjour Virginie Bruneau-Beaufrère.
Bonjour.
Qui tombe à pic, quelle drôle d'expression.
Vous êtes responsable du service culturel de la Cité de la Mer à Cherbourg, un endroit magnifique, qui abrite notamment un parcours d'exposition permanent sur le Titanic. Parce que c'est précisément là que le Titanic fait escale en rade de Cherbourg le 10 avril 1912. Thomas Andrews était un homme passionné par les bateaux dès son plus jeune âge, n'est-ce pas Virginie ?
Tout à fait, il a été, contrairement au reste de la famille qui était passionné par les textiles, lui c'était les bateaux qu'il passionnait dès son plus jeune âge et il a intégré Harland & Wolff très très jeune en tant qu'apprenti.
Est-ce qu'il est responsable du naufrage du Titanic ? Ou est-ce que, cette histoire de canot dont a parlé Stéphane, est-ce qu'il y a vraiment un architecte qui était là avant lui qui n'a pas cautionné le fait qu'il y ait peu de canots ? Est-ce que lui a cautionné le fait qu'il y ait si peu de canots ?
Alors Titanic, comme voilà, on a beaucoup de mythes et légendes, de réalités, il faut démêler tout ça, c'est un peu difficile. Je ne peux pas dire si en effet M. Carlyle s'était insurgé ou finalement avait pris sa retraite plus précocement, comme on peut le retrouver dans certains. C'est possible aussi. En tout cas, comme l'avait rappelé Stéphane, en effet, le Harland & Wolff a vérifié la législation et le Titanic était équipé des canots conventionnels pour l'époque. Donc on aurait pu dire que Thomas Andrews aurait pu, en effet, comme il était très pointilleux, poursuivre cette question des canots de sauvetage, mais il y a tellement de questions et d'innovations à bord qui permettaient de dire en effet que le Titanic était quasiment insubmersible. En effet, toutes les innovations que Thomas Andrews a pu mettre en œuvre sur le Titanic.
Il faut bien voir qu'à 38 ans, quand vous êtes l'architecte du Titanic, il était au sommet de sa carrière. C'est le Titanic, c'était le paquebot le plus ambitieux jamais créé. Mmh. Donc c'était quelqu'un qui était très reconnu.
Oui, tout à fait. Il avait été très investi, donc il avait en effet intégré Harland & Wolff très jeune et gravit tous les échelons de la hiérarchie. Quelqu'un de passionné, reconnu par toutes ses équipes comme étant très précis, très pointilleux et c'était vraiment l'apogée de sa carrière de mettre en œuvre en effet ce paquebot magnifique.
Est-ce qu'il était aussi gentil que le montre le film de James
Cameron?
Ah oui,
parce qu'il est très gentil dans le film.
Il est vraiment
triste pour lui.
Il est du côté des gentils.
Oui, il est du côté des gentils et quand on relit en effet A Night to Remember qui était le premier ouvrage vraiment sérieux écrit sur cette tragédie de Waterland, tous les témoignages des passagers ou de l'équipage ont vraiment mis en avant sa prévenance auprès des passagers, de l'équipage, puisque M. Andrews faisait partie du groupe de garantie à bord, avec 8 autres ingénieurs à bord qui étaient là pour voir les petites imperfections, puisqu'il y en a toujours à bord d'un paquebot, se préoccuper du confort des passagers, mais aussi du confort de l'équipage. Donc c'était quelqu'un de très 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 présent auprès de tout le monde et des très cordial.
Sur son comportement pendant le naufrage, dans le film aussi, on voit qu'il est particulièrement stoïque. Il reste face à ce tableau, il reste jusqu'au bout, il ne cherche pas du tout à s'échapper, à fuir à bord d'une embarcation. Est-ce qu'il s'est vraiment comporté comme ça ou c'est la légende qui a un peu embelli ce côté stoïque ?
Oui, comme vous le dites, la légende autour de Titanic, c'est toujours un peu particulier, mais on peut en effet se fier à ces témoignages qui convergent autour de ce comportement. Le fait qu'il était vraiment présent auprès des passagers, de s'assurer que tout le monde avait son gilet de sauvetage, de savoir où étaient localisés les gilets de sauvetage dans les cabines, de mettre le plus vite possible à l'eau les canots de sauvetage. Voilà, tout ça converge vers son intérêt, évidemment, pour sauver les passagers. Et évidemment, en tant qu'ingénieur, on imagine les responsables des chantiers, on imagine qu'ils ne pouvaient pas imaginer prendre un canot. D'ailleurs, on est bien d'accord, la formule les hommes et les femmes et les enfants d'abord, pardon, et que beaucoup d'hommes ont péri pendant ce terrible naufrage.
Un dernier mot, à votre avis, il est coupable ou non coupable ?
Alors, je ne suis pas juge. Voilà, je pense qu'il a une part de responsabilité, même si, en effet, toutes les innovations qu'il a mises en place, notamment ces fameux caissons étanches ou le double fond du paquebot, donc on avait des équipements vraiment importants pour l'époque, puisqu'on regarde aujourd'hui avec notre œil moderne tous ces équipements, mais à l'époque, c'était vraiment des innovations.
C'est une conjonction
évidemment de faits, comme vous me l'avez rappelé, il y en a des centaines. Et finalement, grâce ou à cause de cette catastrophe, est née cette convention SOLAS en 1914, qui a permis justement de resserrer les boulons, si je puis dire, de la sécurité en mer, de la surveillance des glaces.
Ah, ça c'est super. Oui. En tout cas, merci Virginie Bruneau-Beaufrère. Et pour ceux qui veulent découvrir toute l'histoire du Titanic, Il faut aller à la Cité de la Mer de Cherbourg. C'est un endroit incroyable. D'abord, très bel endroit.
Magnifique gare maritime.
Ah oui, magnifique. Merci beaucoup.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Qu'est-ce que tu racontes de beau ce soir ? Oh, ben rien. Voilà Stéphane, un dialogue du quotidien qui n'existe plus, du moment qu'on écoute Historiquement vôtre.
Oui Mathieu, car chaque après-midi Historiquement vôtre, c'est l'émission qui vous donne la pêche, la banane, la frite et des connaissances historiques qui vous permettront de bluffer vos proches ce soir.
Je sais pas vous Stéphane, mais moi ce qui bluffe le plus mes proches, c'est quand je leur apprends ce qui s'est passé dans les coulisses de l'histoire. Vous savez, ces détails gratinés qui ont échappé à Fernand Braudel, mais pas à Clémentine Portier-Kaltenbach.
Alors là, gratiné, si on veut.
Non, aujourd'hui c'est pas gratiné.
C'est pas gratiné, parce qu'aujourd'hui je vous parle de ces 7 enfants de moins de 2 ans qui sont sauvés, mais qui n'ont pas de parents, personne ne vient les réclamer.
Et sauvés sur le Titanic, je le rappelle.
Sur le Titanic, bien sûr, excusez-moi, j'aurais dû préciser. Alors, parmi eux, donc, Momon et Lolo, que on ne va pas tarder à appeler les orphelins de l'abîme. C'est tragique. Alors, Lolo, c'est en fait Michel Navratil. Il est né le 12 juin 1908, mort le 3 janvier 2001, à l'âge de 92 ans. Il était français et il a été l'un des tout derniers survivants du naufrage du Titanic. Si son frère et lui-même sont devenus célèbres, c'est parce que dans les jours qui suivent le naufrage, donc ils sont les seuls rescapés que personne ne vient réclamer. Leur père, Michel Navratil, propriétaire d'une maison de couture à Nice, s'est embarqué avec eux sous un faux nom, Hoffman, pour aller refaire sa vie aux États-Unis. Pourquoi un faux nom ? Parce qu'il a kidnappé ses deux fils, Momon et Lolo, Edmond et Michel, qui ont alors respectivement 4 ans et demi et 2 ans. Michel Navratil meurt au cours du naufrage. Il a dû être un de ces hommes corrects qu'on laissait passer les femmes et les enfants d'abord. Mais ses deux fils se sont sauvés à bord du Carpathia. Et bien sûr, ils ne sont pas réclamés puisque leur famille ignore qu'ils étaient à bord. Alors, dans la presse, ils deviennent, je le disais, les orphelins de l'abîme. Ils sont pris en charge par une femme richissime qui voyageait aussi sur le Titanic et qui va recevoir des dizaines de propositions d'adoption des deux enfants et puis des dons en argent. La presse s'empare de l'histoire et le 21 avril, leur photo est publiée en seconde page du Figaro. Et là, par bonheur, leur grand-père tombe dessus. Il se précipite pour aller montrer la photo à la mère des deux enfants, Marcel. Ainsi donc, alors qu'ils ont disparu de Nice le 8 avril avec leur père, leur mère ne les reverra que le 18 mai suivant. Elle aura donc passé près d'un mois et demi sans savoir où étaient ses deux fils. C'est quand même terrible. Et cette histoire va faire la première page de tous les journaux. La White Star Line, Radine, envoie Marcel un billet en seconde classe.
Oh, la honte.
Et 3 billets retour en seconde classe aussi. C'est vraiment la honte. Enfin, vu la façon dont elle s'était illustrée, le plus grand naufrage de toute l'histoire. Hop, allez en seconde classe.
Plus d'argent.
Oh, ouais, c'est ça. Bon, hein. Alors, en tout cas, déceptionne. Ça n'est pas le français Momon, mais l'anglaise Milvina Dean qui détient à la fois le titre de passager le plus jeune, parce qu'elle avait 2 mois au moment du naufrage. Inutile de vous dire qu'elle ne se souvient pas de grand-chose. Et elle a été aussi la dernière survivante. Elle a été sauvée avec sa mère et son frère. Cette dame, Melvina, un an avant sa mort, le 31 mai 2009, à l'âge de 97 ans, elle a été obligée de payer ses soins de santé en mettant en vente la valise de vêtements qui avait été offerte à sa mère sur le quai de New York à l'arrivée après le naufrage. Elle l'avait gardée pieusement toute sa vie et là, elle n'avait plus un sou, donc elle a été obligée de la vendre. Et puis, le produit de la vente lui a rapporté 10 fois plus d'argent qu'elle n'en attendait, mais néanmoins, ça ne suffisait pas pour payer les mensualités de sa maison de retraite à Southampton. Alors, dans un élan de générosité magnifique, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet et James Cameron ont versé 30 000 dollars au Melvina Fund, créé pour subvenir aux besoins de Melvina. Les cendres de Melvina, selon ses dernières volontés, ont été dispersées en mer, au port de Southampton, c'est-à-dire que là même où 15 ans auparavant, pleine d'espoir, sa famille avait embarqué sur le Titanic. Alors voyez, le Titanic, ça conserve, parce que les derniers survivants, 92 et 97 ans, voilà, ça leur a donné envie de s'accrocher à la vie. Et puis ça émeut toujours, parce que vraiment...
C'est une bien belle histoire
magnifique.
Que vous nous avez racontée.
Momon et Lolo
faire, James Cameron pourrait faire un Titanic 2 avec cette histoire.
Bon, en tout cas, restez avec nous, parce que le moment de vérité approche à grands pas.
Et oui Stéphane, moment fatidique où il est donné à nos auditeurs la possibilité de vérifier si vous êtes vraiment si calé que ça en histoire, en dehors de l'arbre généalogique des Grimaldi sur 20 générations 100 ans.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission qui vous embarque chaque après-midi dans une virée folle à travers les siècles. Chaque fois, trois personnages, un point commun. Aujourd'hui, les inventeurs morts de leur propre invention. Hélas, pour Stéphane Bern qui excelle dans les récits, il y a aussi dans cette émission une séquence plus douloureuse que j'ai inventée, un genre de contrôle continu qui vous permet de vérifier que Stéphane est bien le surdoué de l'histoire qu'il prétend être. Pour le narguer, on a appelé ça Bern to be alive. Face à vous, Stéphane, celle qui, par courtoisie, par élégance, a toujours la victoire modeste, vous trouvant des excuses.
Quand vous avez un gros caillou dans la vessie, comment voulez-vous ?
Non, non, je vous en prie, Clémentine. Stéphane n'a pas un gros caillou dans la vessie, il est juste nul. Mais il peut se reprendre. Jouons à Bern to be alive. Une question, une réponse, si possible la bonne, s'il vous plaît. Stéphane Bern, première question pour vous. Au 4e siècle avant Jésus-Christ, en Asie du Sud-Est, on utilisait des abeilles pour certaines condamnations à mort. On mettait une sorte d'entonnoir dans la bouche du malheureux et on mettait un essaim dedans. Vrai ou faux ?
Je pense pas qu'il y avait des entonnoirs, hein, cela dit.
Non,
mais ça me dit
l'entonnoir
quelque chose.
L'entonnoir n'avait pas été inventé, selon vous.
Non, voyez-vous, je trouve qu'on respectait beaucoup les abeilles.
Et, c'est vrai.
Et je pense pas qu'on aurait
les
fait ça.
Les cigales plutôt chez les Chinois d'ailleurs que les abeilles.
Eh bien, c'est un bon raisonnement, Stéphane, puisque c'est faux, effectivement. En revanche, savez-vous ce qu'on utilisait pour les supplices ? Un autre animal.
Les fourmis.
Un peu plus gros qu'une abeille.
Oui, je pense.
Non, 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 beaucoup, beaucoup plus
beaucoup
gros
plus
qu'une
gros,
abeille.
Des serpents.
Beaucoup, beaucoup plus gros qu'un serpent.
Des éléphants.
On utilisait des éléphants qui étaient dressés pour s'asseoir sur les condamnés. Ouais. Les Romains et les Carthaginois aussi avaient cette pratique particulièrement sympathique.
Oui. Avec un entonnoir.
Avec un entonnoir. Non, Stéphane, ça n'allait pas jusque-là. Ça ne pouvait naître que dans votre esprit torturé.
Clémentine, elle pense tout de suite, est-ce que l'entonnoir existe ? Ça l'est.
On sent la vraie mère de famille, la bonne ménagère.
Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Les premiers faux culs sont apparus sous Louis XVI, vrai ou faux ?
À la cour, il y en avait beaucoup de l'entendent,
ouais,
des faux culs.
Le faux cul au sens propre.
Parce que le faux cul apparaît. Pour moi, c'est plus tardif, le faux cul.
Donc,
j'irais plutôt non.
Vous dites faux. Vous dites faux, mais tout en répondant mal, parce que vous dites ce n'est pas après, c'est avant.
C'est avant, c'est
Louis
XV.
C'est sous Louis XIV, figurez-vous.
Les faux culs,
c'était un rembourrage du postérieur utilisé par les femmes. Citons Gabriel de Minu, comme ça qu'on dit. Oui, qui écrit en 1587 « Les femmes bourrent leur derrière pour être par là estimées ». On le faisait au XVIe siècle et le mot « faux cul » est arrivé sous Louis XIV.
Oh,
question numéro 3 pour vous, Stéphane. Boris Vian a écrit beaucoup d'ouvrages en prenant un pseudo, en faisant des choix parfois douteux. Il a écrit une nouvelle signée Marcel Prout. Vrai ou faux ?
Oh, Marcel Prout. Enfin, il est bien capable d'avoir fait ça. Moi, j'aime bien raisonner tout haut, chercher.
Oui, d'ailleurs, j'adore que vous raisonniez tout haut.
Écoutez, souvent, ça vous mène. Ce serait pas bien, quoi.
Ça serait mal.
Oui,
vous le condamneriez moralement.
Oui, je trouve.
Stéphane Bern condamne Boris.
Non,
plutôt, il le condamnerait puisque c'était faux. Par contre, il a écrit en signant Honoré Balzac, sans particule, ou Baron Visi, l'anagramme de Boris Vian. Habile.
Donc en fait, j'ai marqué 2 points.
En fait, vous avez marqué 2 points, effectivement, et je crois qu'on n'est pas loin d'être
un moment
historique de l'émission.
Moi, je suis vraiment dans le creux de la
Clémentine,
vanne.
Attention. Attention, Clémentine. Question numéro 4. Fin 19e est inventé par un Allemand le gramophone, un appareil assez volumineux pour écouter un disque phonographique. Il a existé de tout petits gramophones portatifs comme des Walkman. Vrai ou faux ?
Si ça existait, j'en ai jamais vu, donc je dirais non.
Vous
c'est
dites
faux.
Non. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. C'est vrai.
Oh.
Avec ce slogan, un orchestre dans votre poche. Il faisait 12 cm de diamètre, mais il y avait trop de problèmes techniques. 180 000 appareils ont été fabriqués.
Oh.
Voilà, pas un de plus.
Pourtant, j'ai vu toute une collection de phonographes magnifiques. Il n'y avait pas de tout petits comme ça, mais des très beaux. Oh là là.
Clémentine, vous avez beau raisonner à haute voix, vos raisonnements.
Je déprime, je suis au fond du trou.
À la défaite, puisqu'effectivement, on doit le reconnaître, c'est Stéphane Bern qui remporte le quiz aujourd'hui. Et c'est historique.
Oh non,
c'est
bah oui, mais il n'y a pas eu la question rapidité.
Non, c'est pas juste. Il n'y a pas besoin de départager. Non, mais je vais garder le triomphe modeste.
Oui, c'est mieux. C'est mieux parce qu'il y aura une émission demain, Stéphane.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignez pour Historiquement Vôtre, l'émission dans laquelle chaque après-midi je vous raconte l'histoire sans jamais me la raconter. C'est ça, hein, Mathieu ?
Oui, bien sûr, Stéphane. Mais franchement, pourquoi vous la raconteriez ? parce que vous présentez l'émission d'histoire la plus célèbre de la télévision française depuis Alain Decaux, que vous êtes le monsieur patrimoine du gouvernement, que vous chapeautez en quelque sorte le ministère de la Culture,
oh
on
non,
peut le dire.
Vous riez.
Que vous appelez le président de la République Manu.
Mais jamais.
Votre Manu.
Mais
non,
jamais.
Vraiment, vous n'avez aucune raison de vous la raconter.
Bah,
d'ailleurs,
je me la raconte.
Vous
pas
avez dîné à la maison hier soir, je peux le confirmer à nos auditeurs, vous avez su rester quelqu'un de très simple, même si vous m'avez quand même donné 2-3 trucs pour les dîners mondains.
Tu fais renvoyer les plats pour bien montrer que tu es le maître de la soirée.
Je sens que je vais devenir un homme meilleur à votre contact, Stéphane. Sans cela raconter, donc, on vous parle d'histoire.
Oui, Mathieu, chaque après-midi, 3 personnages très différents, mais ayant un point commun. Je ne sais pas, vous avez cherché des sons dans des endroits très bizarres de vos archives.
Tant que c'est que des sons.
Aujourd'hui, on vous parle de ces inventeurs qui sont morts de leur invention. Après Thomas Andrews, l'architecte du Titanic, je vais revenir sur le destin tragique de Marie Curie. Quant à vous, Mathieu, vous nous parlerez d'un personnage beaucoup plus contemporain, mais au destin tout aussi tragique.
Tragique, comique, pour être tout à fait précis, Stéphane, car mourir en tombant d'une falaise à bord d'une trottinette électrique quand on est le patron d'une boîte de trottinettes électriques, c'est ballot.
Eux aussi sont, à leur manière, des inventeurs, mais on espère qu'ils finiront mieux. Au programme de cette deuxième heure également, pour comprendre, toujours en s'amusant, comment le passé éclaire notre présent, Olivier Pouls, notre spécialiste de la bonne chère, nous raconte l'histoire des recettes et de la cuisine. Et dans Papy de la Nation aujourd'hui, le cupcake.
Qui n'est pas que pour les enfants, Stéphane, vous découvrirez.
Et ben, oui, pourquoi pas. Et parce que l'histoire, c'est aussi des mots, j'aurai comme tous les jours le mot de la fin. Aujourd'hui, je vous raconterai pourquoi on dit le daron.
Ah oui.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Si seulement elle avait vu la série Tchernobyl, Marie Curie aurait su que le radium c'était dangereux. Et là, Stéphane, elle n'était pas abonnée à Netflix. Et tout ne s'est pas passé du tout comme elle l'avait imaginé.
Historiquement vôtre. Le récit.
Oui, je vous plonge, sans danger aujourd'hui, dans la vie de Marie Curie, l'une des personnalités scientifiques les plus célèbres du monde, dont les découvertes ont jalonné sa vie et causé sa mort aussi. Mais il est important de revenir au début. Marie Curie est une pionnière, première femme élue à l'Académie de médecine en 1922, première femme professeure à la Sorbonne, et surtout, seule femme ayant reçu 2 fois un prix Nobel. En physique, en 1903 pour ses travaux sur les radiations, et en chimie, en 1911 pour ceux sur le radium. Tout ceci à une époque où le sexisme était bien plus criant qu'aujourd'hui. Ces reconnaissances, et j'en ai cité que quelques-unes, Marie Curie née Sklodowska à Varsovie, en Pologne, en 1867, elle les doit à sa passion intarissable pour la science. Je dis passion, mais on pourrait presque parler de fièvre quasi religieuse. Quand on sait avec quel dévouement elle se consacra à ses recherches, et cela au mépris des dangers pour sa propre santé. C'est cette passion dévorante qui lui vaudra ses découvertes majeures sur la radioactivité, découvertes qui vont finir par la tuer. Vous l'avez bien compris.
Mais d'habitude, vous nous le dites à la fin, ça. Cette fois, on le sait d'emblée, Marie Curie va mourir. Pas de suspense, quoi.
Oui, oui. Les longues heures passées dans le laboratoire exposées à des éléments radioactifs auront pour conséquence de provoquer chez elle une leucémie, un cancer du sang dont elle décédera en 1934, à l'âge de 66 ans.
Mais est-ce qu'elle connaissait les risques ?
Disons qu'elle ne pouvait pas complètement ignorer la dangerosité des substances radioactives. Si les délais entre exposition et apparition des symptômes n'alertent pas tout de suite les scientifiques sur leur nocivité, à partir de 1920, des alertes sérieuses commencent à mettre en garde contre les effets de certaines substances radioactives sur le sang. À la même époque, plusieurs des collaborateurs de Marie Curie tombent malades des suites d'une exposition trop importante à la radioactivité. Elle-même a déjà de sérieux problèmes de santé. Ses mains présentent des lésions chroniques. Elle souffre de la cataracte. Mais cela ne l'empêche pas de continuer ses travaux. On dit d'ailleurs qu'elle s'expose plus qu'elle n'engage ses collaborateurs à le faire. Manifeste-t-elle un certain dédain pour le danger ? A-t-elle le sens du sacrifice ? Sûrement un peu des deux. En tout cas, l'incertitude face au danger de la radioactivité n'est pas suffisante pour la faire reculer. Cette forme d'héroïsme n'est pas rare chez les scientifiques de l'époque. Prenez Pasteur, par exemple. Il a été victime à 46 ans d'un AVC qui lui paralyse toute une partie du corps, ce qui ne l'a pas empêché de continuer ses travaux et de découvrir, entre autres, le vaccin contre la rage. À la fin du 19e siècle et au début du 20e, on revendique sa passion et son engagement pour la science haut et fort.
C'est une vocation. Les plus méritants font avancer leurs travaux au péril de leur propre vie, s'il le faut. Un peu comme un médecin pendant une épidémie, ou comme un soldat sur un champ de bataille. D'ailleurs, pour prouver que Marie Curie était bien dans cet état d'esprit d'héroïsme scientifique, il n'y a qu'à voir à quel point elle était désintéressée. Fut un temps, elle et son mari, Pierre Curie, auraient pu faire fortune, mais ils s'y refusent délibérément.
Comment peut-on refuser de faire fortune, Stéphane ? Ça me dépasse.
Je vais vous expliquer pourquoi, mais faites la douloureuse expérience de patienter un instant.
Europe 1, 16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Historiquement vôtre continue chaque jour, vous le savez, trois personnages unis par une thématique. Aujourd'hui, ces inventeurs qui sont morts de leurs propres inventions. Alors, Marie Curie, dont on parle, n'a pas inventé le radium, mais disons qu'elle l'a un peu trop tripoté, Stéphane, ce qui s'est passé.
Et elle l'a découvert, surtout Mathieu. Pierre et Marie Curie signent leur plus grande découverte, successivement, avec deux nouveaux éléments, le polonium et le radium. Découverte avec laquelle ils auraient pu faire fortune. En 1897, s'intéressant de près aux travaux d'Henri Becquerel, qui vient alors de démontrer que l'uranium émet spontanément un rayonnement de nature étrange, Marie Curie parvient à démontrer que ces rayons sont une propriété de l'atome. Ils viennent ensemble de découvrir la radioactivité.
Ensemble, on peut faire des grandes choses. Quand on est deux, Stéphane, on est plus fort.
Et c'est vrai, si vous le dites. Pour eux, en tout cas, c'est indéniable, Mathieu. Intrigué par ses découvertes, Pierre Curie décide d'aider sa femme dans ses recherches. Et c'est ensemble qu'ils découvrent l'année suivante l'existence de ces deux éléments nouveaux, le polonium et le radium donc. Des éléments beaucoup plus radioactifs que l'uranium. Dans les années qui suivent, Marie Curie concentre ses recherches sur le radium et notamment sur ses applications thérapeutiques.
C'est là que ça va péter.
Exploser même. Mais ce n'est pas ce que vous imaginez. Au début du XXe siècle, il va se produire une véritable frénésie autour de cet élément, considéré comme miraculeux. Savon, radium, beurre, soda, suppositoire, cirage, maquillage, préservatif.
Préservatif au radium ? Oui. Et ça avait quel effet ?
Devinez.
Je vous en prie.
Cet argument marketing paraît aujourd'hui complètement hallucinant quand on sait les ravages de la radioactivité. Mais cela s'explique par le fait que le radium a permis beaucoup de choses et notamment, il s'est rapidement avéré très efficace à petite dose. Dès 1903, Marie Curie met à profit l'action pénétrante des rayons du radium pour traiter les tumeurs cancéreuses. La radiothérapie est née. D'ailleurs, quand elle est pratiquée par voie interne, on l'appelle encore aujourd'hui la curithérapie. Pourtant, Marie et Pierre Curie n'ont tiré aucun profit de cette découverte, tout simplement parce qu'ils n'ont pas déposé de brevet, et cela volontairement. Le couple voulait que cette découverte profite au plus grand nombre. Ils croyaient dur comme fer, comme beaucoup d'autres scientifiques d'ailleurs, que la radioactivité sauverait le monde. Elle en a sauvé pas mal du monde. Aujourd'hui encore en France, plusieurs milliers de patients cancéreux bénéficient de traitements de curithérapie chaque année. Et c'est sans compter avec les autres pendants de la médecine nucléaire, les autres modalités de radiothérapie, mais aussi les techniques d'imagerie médicale utilisant des radioéléments. Traitements, diagnostics, progrès de la recherche en médecine, biologie, chimie, les répercussions sont si vastes qu'elles sont incalculables. Marie Curie a laissé sa vie en 1934, mais elle en a sauvé tellement d'autres de vies depuis.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors, autant en cours de physique-chimie, j'étais pas balèze, autant là, vous m'avez bien expliqué, Stéphane, j'ai presque tout compris. Mais profitons quand même de la lumière de notre invité du jour pour éclairer Marie Curie. Bonjour, Renaud Huyn.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du musée Curie à Paris, commissaire de l'exposition Marie Curie, une femme au Panthéon. Vous êtes co-auteur de la fantastique histoire du radium et vous faites partie des auteurs des lettres à Marie Curie qui sont parues il y a quelques mois. Dans la lettre que vous adressez à Marie Curie, dans ce livre, vous parlez notamment de la difficulté de lutter contre les stéréotypes, les idées reçues, les fantasmes qui la concernent, sans doute bien aux dépens de ce qu'elle aurait souhaité. À votre avis, il y a toute une mythologie autour de Marie Curie, alors que la vérité suffirait à lui rendre l'hommage qu'elle mérite ?
Bon, la plupart des personnages célèbres comme ça sont des personnages un petit peu transformés. Mmh. Et c'est vrai que Marie Curie, on lui attribue beaucoup de découvertes et de valeurs qui appartiennent à d'autres.
Par exemple ?
Elle porte par exemple cette image du féminisme, mmh. d'une femme engagée pour le féminisme. En fait, dans la réalité, elle s'est très peu engagée. Par contre, sa fille Irène, elle, au contraire, était vraiment une féministe. Donc ça, ça fait partie des petites choses qu'on attribue à Marie Curie qui ne sont pas forcément réelles. Après, il y a un certain nombre de petites inexactitudes historiques qui n'ont pas grande importance. Ce qui est plus délicat, c'est finalement dans l'image qu'elle peut renvoyer auprès du public, une image assez austère, assez froide. Ce n'est pas tout à fait l'image...
C'était une déconneuse, Marie Curie ?
Oh, je ne suis pas sûr que c'était vraiment une déconneuse, mais ceci dit, elle renvoie cette image triste alors qu'elle était animée, comme vous le disiez tout à l'heure, d'une vraie passion. Et c'est plutôt ça qui me semble intéressant de mettre en avant.
Vous avez vu le téléfilm qu'on a diffusé il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, à la télévision sur Marie Curie ?
Est-ce que vous
l'avez reconnu ? Est-ce que c'était assez juste ou...
Alors, il y a eu plusieurs films. Il y a eu celui où on la voit investie sur le front pendant la Première Guerre mondiale, où là, effectivement, on est proche de la réalité historique. Et la plupart des autres films sont plutôt des fictions.
Oui. Où elle se bat, par exemple, pour imposer qu'une femme puisse présenter ses travaux.
Le monsieur vous a dit qu'elle n'était pas féministe. Ça, oui. C'était une déformation
non, mais
d'histoire. C'était
par pas contre, bon. Elle a dû lutter contre tous ces pontes de la médecine qui la traitaient comme...
Elle a dû se faire accepter... Elle était relativement bien acceptée dans la communauté scientifique. C'est plutôt dans l'opinion publique, finalement, qu'elle posait problème, parce qu'elle était assez rare, et peut-être aussi d'origine étrangère, ce qui apportait une autre complexité.
Pierre et Marie Curie, est-ce qu'ils avaient conscience de la dangerosité de la radioactivité ? On a l'impression que quand ils ont découvert le radium, il y avait un enthousiasme sur les vertus curatives de cet élément, mais pas du tout sur la... Enfin, en tout cas, pas dans la mesure qu'on connaît aujourd'hui, sur sa dangerosité. Ils se rendaient compte de ce qu'ils manipulaient ?
Pas dans l'immédiat. La dangerosité
c'était
du radium.
C'était trop tard quand ils en sont rendus compte.
D'une certaine manière, mais si vous voulez, ils étaient plus intéressés par les applications scientifiques et toute la recherche que ça ouvrait, plutôt que les petits troubles que ça pouvait avoir sur la peau, par exemple. Mais il se trouve que Pierre Curie a fait sur lui-même une expérience assez saisissante, puisqu'il s'est appliqué du radium sur l'avant-bras pour décrire les effets de ces rayonnements invisibles. Et c'est comme ça que Pierre Curie, le physicien, va permettre de faire un pont avec la biologie en expliquant que ces rayonnements ont un effet sur les tissus. Et c'est comme ça que va naître justement la curithérapie, l'application de radium pour traiter un certain nombre de maladies cutanées.
On a souvent parlé de son attitude sacrificielle. Moi-même, je viens de la raconter. Est-ce qu'il faut nuancer cette vision ? Elle est peut-être un peu romanesque. Et est-ce qu'elle est décédée, Marie Curie, comme on l'a dit, des longues heures qu'elle a passées dans son laboratoire à s'exposer à tous ces éléments radioactifs ?
Oui, mais il faut apporter des petites nuances à tout cela, parce qu'effectivement, elle a été très exposée au moment des travaux de la découverte du polonium et du radium. Et ensuite, elle s'est préoccupée de la protection, non seulement d'elle-même, mais des gens qui travaillaient avec elle. Elle a fait partie, comme ça, des premières commissions de radioprotection dès 1928. Mais elle est quand même décédée des suites d'une exposition prolongée aux radiations. Et ce que montrent les prélèvements qui ont été faits sur les restes de Pierre et Marie Curie au moment du transfert de leur dépouille au Panthéon, c'est que finalement, c'est peut-être aussi les rayons X qu'elle a utilisés pendant la Première Guerre mondiale qui ont entraîné son décès, puisque le radium, finalement, est arrêté par la peau et pénètre moins facilement que les rayons X dans l'organisme.
Pour ceux qui veulent comprendre un peu plus sur le radium et la radioactivité, vous venez de lancer un site internet, laméthodedecurie.fr. C'est entre la BD, l'animation, le roman historique et puis une leçon de science. Vous expliquez tout avec beaucoup de clarté et d'humour. Comment vous pourriez, en quelques mots, nous expliquer le radium ?
Le site, c'est la méthode Curie.
J'ai dit quoi ?
Vous allez mettre la méthode de Curie, ce qui aurait eu du sens aussi, mais si on le tape sur Internet, sur Google, il faut taper laméthodedecurie.fr.
Oui, c'est très juste. Oui.
C'est très juste.
Oui, vous avez raison.
Mais je suis là pour ça, Stéphane, aussi.
Vous êtes radioactif.
Vous corrigez parfois.
Vous êtes très radioactif.
Je vous en prie.
Alors, la grande difficulté, c'est de raconter justement toute cette histoire du radium qui est très riche. Et je vous invite, Stéphane, à venir visiter le musée Curie.
Ah oui, j'aimerais beaucoup.
Puisque c'est là qu'on y traite finalement de cette histoire, de sa découverte, avec l'engouement dont vous parliez avec les crèmes de beauté,
et ça,
etc.
Et vous en avez des échantillons de ces crèmes ? Enfin, on ne peut pas les toucher, j'espère, mais ça, et quelque part, c'est conservé ?
Alors, non seulement on en a, mais en plus, on peut les toucher.
On peut les toucher ? Mais c'est radium... très dangereux, vous êtes vous ! Prends ce huine !
Justement, le radium coûtait une telle fortune qu'on n'en utilisait que de très faibles quantités.
Ah, donc, à ce dosage-là, ce n'était pas très dangereux, en fait ?
C'était insignifiant.
D'accord.
En tout cas, c'est vos... vous rendez hommage à cette femme qui était vraiment extraordinaire. Vous savez ce qu'elle a dit au moment de mourir
Vous étiez là ?
Non, mais je fais un spectacle, je raconte les derniers mots des gens célèbres. Et elle aurait dit, on lui a apporté du thé, elle dit, mais ce thé, vous l'avez préparé avec du radium ou du mésothorium ? Et puis, c'est ses dernières paroles.
Ah, c'est tout ?
Oui, et puis, je ne sais pas si elle l'a bu, mais elle est morte.
Comme quoi, elle avait de l'humour.
Oui.
Elle n'était pas si austère que ça.
Mais non, en fait, elle devait avoir beaucoup d'humour.
Et question profane, peut-être, mais son lien avec son mari, Pierre Curie, qui était le génie des deux ? On a souvent dit qu'en fait, c'était elle, que lui, en fait, il vivait dans l'ombre de sa femme, que c'est elle qui avait eu les idées. En fait, ou est-ce que lui aussi était un grand chercheur ? Est-ce qu'il faut le réhabiliter, lui aussi, Pierre Curie ?
Je pense que c'est absolument indispensable de le réhabiliter, puisque selon les périodes historiques, c'est l'inverse qui a pu se produire. À un moment, Marie Curie était considérée, y compris après le décès de Pierre Curie, comme la jeune étudiante polonaise, l'épouse du grand savant. Et aujourd'hui, on a presque tendance à oublier que Marie Curie porte le nom de son époux, Pierre, tellement elle est extraordinaire.
Mais c'est surtout qu'on n'arrive pas à prononcer ce que
c'est plus facile pour nous.
Et donc c'est plus facile de dire Pierre et Marie Curie que Pierre Curie et Marie Sklovskowska.
Oui, voilà. Et démonstration est faite, Stéphane. Voilà.
Oui. En tout cas, merci Renaud Huyn. Je rappelle que vous êtes directeur du musée Curie qui se situe dans l'ancien laboratoire de Marie Curie. Et c'est dans le 5e arrondissement de Paris.
Il y a plein de radium là-dedans quand même. Moi, ça me fait peur.
Oui, mais moi, ça me donne très envie d'aller le visiter, en tout cas. Voilà. Donc à bientôt, on ira vous voir.
À bientôt, vous êtes les bienvenus à l'Institut Radio.
Même Mathieu.
Magnifique.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Chaque jour vers 17h30, Historiquement vôtre entre dans une phase plus contemporaine de l'histoire avec notre troisième personnage.
Il nous fait des effets, mais vous jouez au robot par moment. Vous faites
j'adore,
quoi, Stéphane ?
J'adore
vous
faire
êtes fou.
Lui aussi est mort de sa propre invention. Cette histoire est incroyable. Écoutez bien, tendez l'oreille. Mathieu va vous parler de Jimmy Heselden, un multimillionnaire qui avait tout pour être heureux. Sauf qu'il n'avait pas de chance.
Alors non, la chance, vous allez voir, n'a rien à voir dans tout ça, Stéphane. Jimmy Heselden était simplement trop gentil.
Ah ben voilà,
la gentillesse, à petite dose, c'est utile en société pour s'attirer des sympathies. Mais à l'échelle d'une vie, si on en abuse, on finit, vous allez voir, par le payer cher. Oui, mon mort à moi, je l'aime. Je l'aime parce que c'est le plus gentil des morts qu'on compte de l'histoire. Il s'appelle Jimmy. Alors déjà, c'était un peu écrit, hein. Peu de tortionnaires s'appellent Jimmy. Les Jimmy jouent plutôt de la guitare en fumant des gros bédos. C'est comme ça qu'on les imagine en tout cas. Qu'avait donc inventé notre Jimmy ? Je vais vous le dire. Mais avant toute chose, répondez honnêtement à cette question, Stéphane. Vous êtes déjà dit, en croisant des policiers à bicyclette, alors eux, je ne sais pas quel pari ils ont perdu au poste avec leurs collègues, mais clairement, ils se sont fait entuber. Je suis sûr que vous êtes dit ça, regardez, des flics à vélo.
Non, ça dépend des endroits, vous voyez.
Ah oui, la campagne, ça vous choque pas encore dans Paris. Bon. Oui. Vous imaginez ce que se disent les gens lorsqu'ils croisent des policiers en Segway, car oui, des patrouilles en Segway, ça existe.
Ah oui,
alors,
oui.
Pour rappel, les Segway, qu'on peut appeler aussi gyropodes, si on veut respecter la langue de Molière, sont des véhicules assez extraordinaires. Engins futuristes équipés de deux roues de buggy et d'un moteur électrique pouvant circuler jusqu'à 19 km/h. C'est-à-dire que le Segway réussit le tour de force de combiner l'encombrement d'un buggy, la maniabilité d'un 5 tonnes et la vitesse de ton petit frère sur une draisienne. Alors oui, quand on se déplace dessus, hein, on a l'air con. Mais imagine lorsqu'on meurt dessus. C'est ce qui est arrivé au patron de Segway, pour être précis, pas son inventeur en fait, notre Jimmy Heselden. Donc pourquoi je m'évertue à vous rabâcher qu'il est gentil, Jimmy ? Eh bien voilà. Avant de racheter la société Segway, cet Anglais, longtemps employé des mines britanniques, devient multimillionnaire en fabriquant les murs de protection ESCO. Vous savez, ceux qui sont utilisés à la place des anciens sacs de sable en Afghanistan, en Irak. Une fois sa fortune assurée, gentil Jimmy déclare « Il y a des gens qui gagnent de l'argent et quand les temps sont bons, je crois honnêtement que les gens ont l'obligation morale d'utiliser leurs richesses pour aider les autres. » Drôle d'idée, commentera Patrick Balkany. Une idée que Jimmy met rapidement en pratique en faisant un don de 1,5 million de livres à l'association Help for Heroes, venant en aide aux militaires blessés. Et puis peu après, il en donne carrément 10 millions de livres aux pauvres de la ville de Leeds, où il a grandi. Voilà Stéphane qui était Jimmy. S'il avait voulu sauver le patrimoine, lui, il n'aurait pas fait appel au pognon des autres en leur faisant acheter des tickets de loterie, il aurait pris sur ses fonds propres. Je dis ça, je dis rien.
Alors, encore faut-il en avoir des fonds propres.
Oui. En outre, loin de moi l'idée de militer pour la gentillesse, vous allez voir où ça mène d'être gentil. 26 septembre 2010, pour le frisson que procure sa vitesse de pointe de 19 km/h et le plaisir toujours renouvelé d'avoir l'air con, Jimmy décide de partir se balader en Segway. Il emprunte alors un sentier au bord d'une falaise surplombant une rivière. Alors certes, dit comme ça, il le cherche un peu, me direz-vous. Sur ce sentier, malheureusement, Jimmy n'est pas seul. Il y croise soudain un homme en train de promener son chien. Et là, il fait quoi, gentil Jimmy ? Ben, il est super gentil, je vous rappelle. Donc là où Stéphane aurait forcé le passage en hurlant « Hors de ma vue, Maro, tu sais pas qui je suis, allume France 2 !» Quitte à écraser le clébard sous le Segway, dont les grosses roues ont enfin servi à quelque chose.
Non, non, pas le chien.
Jimmy fait pas ça. Jimmy, il tente une marche arrière en Segway pour permettre au monsieur et son chien de passer. C'est là que tout bascule. Car déjà, une marche avant en Segway, c'est pas simple. Mais alors, une marche arrière, avant Jimmy, personne n'avait tenté. Et fatalement, ce qui devait arriver arriva, c'est en faisant machine arrière avec son Segway qu'il dérape, tombe dans la rivière et décède. J'en avais l'intuition, nous en avons désormais la certitude sur Europe 1, la gentillesse tue, mais elle rapporte. Sa veuve et sa famille ont hérité d'une fortune de plus de 340 millions de livres sterling. Dans l'histoire de l'humanité, une seule mort plus conne que celle-ci est répertoriée. Stéphane, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est celle d'Eschyle, le grand dramaturge grec, pote de Sophocle et d'Euripide. Il est mort en 456 en recevant quelque chose sur la tête. Mais quoi donc, vous le savez, Stéphane ?
Une tortue.
Oui. Ah ben non, mais... Bonne réponse, Stéphane. Ce qui m'a donc j'ai pas pu faire.
Ah pardon, mais vous me posez une question, je réponds.
Oui, vous êtes trop cultivé, Stéphane.
Non, c'est connu. Parce qu'il y a plein de livres comme... qui s'appellent la tortue d'Eschyle.
Vous savez pourquoi
la tortue d'Eschyle ou autre mort con de l'histoire.
Et vous savez pourquoi une tortue enfin, comment c'est possible. Pourquoi une tortue lui est tombée sur la tête. C'est étonnant.
Elle est tombée du mauvais côté.
Ah non, d'accord. Vous connaissez juste le fait qu'il soit mort avec une tortue lui est tombée sur la tête. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi une tortue lancée par un rapace qui aurait pris son crâne chauve pour un caillou. Et donc la tortue était donc destinée à briser cette carapace. Mort la plus con de toute l'histoire. Pire encore que Jimmy Hesselden. Ouais, il était gentil, c'est... Jimmy.
Ouais. J'aimais bien, moi, votre Jimmy, mais et en même temps, sa femme lui est très reconnaissante.
Lui dit merci, oui.
340 millions.
Ça fait rêver, hein, Stéphane. Ouais, même vous. C'est ça qui est fou.
Bon, alors maintenant, la vraie question... Votre récit était 99% vrai.
Il était 100% vrai parce qu'on ne peut pas inventer une histoire comme ça. C'est forcément, avec la marche arrière.
Il n'y avait rien de faux.
Rien de faux, tout était vrai. Dans ce que j'ai raconté
Le type avec le chien, c'est vrai.
Le type avec le chien, bien sûr, c'est vrai. C'est ça vrai. Qui fait tout le sel de l'histoire, effectivement. Le type avec le chien, la marche arrière, parce qu'il était gentil, Jimmy.
Ouais.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Quand j'ai accepté de présenter cette émission avec Stéphane Bern, j'avais compris que mon rôle serait d'animer Historiquement vôtre avec lui, mais très vite j'ai compris que je serais également son maître d'hôtel. Pour satisfaire son palais et par la même occasion découvrir chaque jour l'origine d'une recette, j'ai recruté Olivier Pouls, le Vatel belge, qui s'emploie à satisfaire les papilles de Sa Majesté, qui heureusement a su rester simple.
J'ai des goûts très simples, vous avez une... écoutez... Le homard.
Vous avez bien un petit homard sous le coude, Olivier Pouls.
Bien sûr, mais le caviar, non, parce qu'il ne le digère pas.
Ça ne passe pas. Non, c'est d'un point de vue gastrique, ça ne fonctionne pas.
On est à l'école d'origine.
Alors, Olivier.
Bonjour, Olivier.
Bonjour, les amis. Eh bien, moi, je vois bien Stéphane au tea time, voyez-vous.
Ah, j'adore ça. Je vois bien aussi.
Mais j'aime bien les scones. Moi, j'adore
les scones. C'est sûr que vous arrivez à le dire tellement bien que vous le dites souvent.
Et est-ce que vous aimez aussi les petits cupcakes?
Alors non, Stéphane, je vais vous répondre poli. Il pense que les cupcakes sont un gâteau uniquement destiné aux enfants, en fait. Il ne sait pas que les adultes peuvent en déguster aussi.
C'est très tendance, c'est redevenu très tendance.
Oui.
Et surtout grâce à une série américaine qui a remis le cupcake... Non, pas loin. Sex and the City.
Sex and the City, oui.
Où elles passaient leur temps l'après-midi.
Elles sont gaulées comme ça dans Sex and the City et elles bouffent des cupcakes.
Bah oui, mais non, à mon avis...
Elles les font, oui.
Il y a un peu de trucage, voyez-vous. Moi, j'en mange pas mal aussi.
Oui, et vous,
je ne suis pas gaulée comme ça.
Ça se voit un peu plus, oui.
Alors, le cupcake, c'est une petite pâtisserie originaire des États-Unis qui remonte à fort longtemps parce que la première trace, figurez-vous, de ces fameux cupcakes, on dit « a cake to be baked in a small cup ». Remonte à un livre de cuisine de 1796, vous imaginez. Donc on ne l'a pas inventé hier. Alors pourquoi cupcakes? Alors probablement parce qu'effectivement c'était cuit dans un cup, donc dans une petite tasse, mais aussi probablement parce qu'on utilisait à l'époque la tasse comme instrument de mesure. On ne pesait pas les ingrédients, on les mesurait.
Et
ça c'est très intéressant. Alors il y en avait, mais pas forcément dans les cuisines, et puis c'était pas aussi fiable qu'aujourd'hui. Votre magnifique balance, par exemple, au dixième de gramme près.
Mais lui, c'est une balance.
Une balance tout court. Et en fait, il y avait une recette qui était très simple, on l'appelait le 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, si vous n'avez pas suivi le cakes, parce que c'est très facile à retenir, et ça m'emmène à la recette. Il y a un petit moyen mémotechnique évident, enfin, très facile en tout cas pour
une règle de
retenir.
Trois.
Eh oui, une pour une tasse de beurre, deux pour
ça
deux tasses de sucre, trois pour trois tasses de farine, et quatre pour quatre œufs. Si vous mélangez tous ces ingrédients, et ça fait un cupcake.
Attends, mais c'est quoi le deuxième?
Une tasse de beurre, deux tasses de sucre, trois tasses de farine, quatre œufs.
D'accord.
Vous mélangez tout ça et vous avez la base de ce qui sert
à faire,
évidemment, à faire le cupcake. Alors après, on peut l'aromatiser, c'est ça qui est sympa.
Ah oui, mais attends, le cupcake, il y a un travail parfois dessus, le design.
En fait, c'est comme un 4 quarts, en fait.
C'est un petit peu l'idée, mais c'est pas tout à fait les mêmes proportions.
D'accord.
Moi, j'aime bien mettre des pépites de chocolat, par exemple.
Ça ne m'étonne pas de vous.
Bon, pour Stéphane, je mettrais, des petits zestes de citron, par exemple, ça vous irait, par exemple.
Ouais.
Et pour vous, Mathieu, de la vanille.
Oh oui.
Voilà, vous ça, avez ça apporté fait la base.
Ils sont où,
ils sont en train de cuire.
Oui, c'est ça. Ouais,
vous
c'est
sentez
sûr.
Pas l'odeur, ah, là, ouais. C'est en train de monter. Et puis après, surtout, le cupcake, c'est qu'il faut le garnir au-dessus. Il y a ce qu'on appelle le glaçage. Et c'est ça qui fait tout le charme
ça,
de
ces cupcakes.
Ça, c'est
plus dur à
faire. Alors, si vous êtes fainéant, vous mettez de la chantilly. Hein, ça, c'est pas très compliqué. Si vous êtes un tout petit peu plus cordon bleu, vous allez faire ce qu'on appelle un glaçage royal. Ça doit vous parler, Stéphane.
Non, pas plus que ça, mais... C'est quoi?
Alors, le glaçage royal, c'est 300 grammes de sucre pour un blanc d'œuf qu'on va mélanger avec quelques petites gouttes de citron et on ne le cuit pas et on va badigeonner ensuite cela sur le dessus du cake avant de le cuire au moment de la cuisson, évidemment.
Ça se solidifie.
Ça va solidifier, ça va vous faire un très beau glaçage.
Encore incroyable. Une belle recette détox,
belle recette,
hein, Olivier.
Hein, oui. Merci beaucoup, Olivier. On vous retrouve demain, ici même, et samedi à 11h dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte.
À présent, c'est une des injustices les plus profondes qui existent parmi les hommes. Certains s'expriment avec difficulté, d'autres, au contraire, semblent naturellement dotés d'une aisance verbale qui suscite l'admiration de tous. Non, Stéphane Bern fait partie de cela. C'est quelqu'un qui trouve toujours le mot juste, pas vrai, Stéphane?
Écoutez, moi,
Oui, vous. C'est bien normal qu'avec une telle faconde, on vous confie la mission chaque jour de nous expliquer l'origine d'une expression. Le fin mot de Stéphane arrive. Oui, il arrive doucement, mais il arrive.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Chaque après-midi dans Historiquement vôtre, on s'intéresse bien sûr aux histoires des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire, mais aussi à l'histoire des mots. Certains sont piégeux, Stéphane Bern l'a souvent constaté à ses dépens.
Certains mots
sont piégeux. Néanmoins, chaque jour, Stéphane, c'est à vous que revient l'honneur de clore notre émission avec notre rubrique « Les fins mots de Stéphane Bern ». Aujourd'hui au programme.
Oui, comme vous Mathieu, j'aime citer les grands auteurs et parmi eux, il y en a un qui on ne rend pas assez hommage, le rappeur Black M.
Mon exemple daron, le chef, le vrai patron, sans lui je tourne en rond.
Je vois bien écouter ça voilà, dans votre voiture.
Comme sa chanson, le plus fort du monde, dans laquelle il dit, je le cite, hein, vous l'avez entendu, « Je ne vois pas le futur sans mon père, c'est mon plus grand repère, mon exemple daron, le chef, le patron ». Le mot du jour, c'est « daron ».
Ben oui, d'où ça vient, ça?
Aujourd'hui, dans les collèges, les lycées, nos enfants utilisent à tout va cette formule pour désigner le père de famille, n'est-ce pas?
Est-ce que c'est ancien comme mot, « daron »
Non, Mathieu, ce n'est pas ancien, c'est très ancien.
Ah.
Pensez qu'au XIIIe siècle, un daron est une petite forteresse. Puis au XVIIe siècle, l'expression désigne le maître de maison. Au siècle suivant, c'est le père ou le patron. Et enfin, au XIXe siècle, le daron, c'est le tenancier d'une maison close. Chose aussi étonnante qu'amusante, le daron désigne donc un personnage louche, mais aussi un préfet de police. On parle alors de daron de la raille ou daron de la rousse. Que ce soit dans un lupanar ou à la tête de l'intérieur, il faut mettre de l'ordre.
Alors pourquoi daron?
L'origine vient vraisemblablement de l'ancien français daru qui signifie un fort, mais aussi de la fusion du dame venant de dominus, le maître, au baron.
Ah.
Aujourd'hui, la jeune génération parle du daron et de la daronne pour désigner les parents. Un frère un peu trop autoritaire ou un ami un peu trop relou, on dira « fais pas ton daron ». Je ne sais pas vous, mais moi cela me réjouit de voir qu'une expression passe ainsi des siècles et que sa définition a pu évoluer, mais qu'elle est toujours utilisée.
Merci Stéphane, vous êtes mon daron, je vais vous appeler comme ça maintenant.
Oui, mais oui, c'est très ancien.
C'est le 13e siècle, j'aurais jamais dit. Oui.
Europe 1, historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, c'est bientôt fini. J'espère qu'avec Stéphane, nous vous aurons donné envie d'aller fleurir les tombes de ces inventeurs qui sont morts de leur invention. Thomas Andrews,
ça va être dur, hein,
ça va être dur de trouver la tombe. Non, mais on peut la chercher. On prend un bateau et on peut trouver un bon GPS et à mon avis, on trouve quelque chose. Marie Curie, la pionnière du radium.
Allez visiter le Panthéon.
C'est vrai. Et Jimmy Heselden, le pionnier de la trottinette électrique volante, dont le plan de vol fut dramatiquement simple, décollage de la falaise et crash dans les rochers. Comme disait ironiquement Stéphane hors antenne, il a fini.
Le sexe dans la pierre.
Bon, Stéphane, on avait dit pas les morts quand même, pas les morts. Dites-nous plutôt ce que vous retiendrez de cette émission. C'est vrai, qu'est-ce qui vous a le plus frappé aujourd'hui?
Écoutez, j'ai appris beaucoup sur le radium, sur tout ce qui se passait autour de Marie Curie.
Mais je vais vous offrir un savon au radium, qu'on a découvert
que ça existait. Oui. Et puis, à bord du Titanic, c'est vrai qu'il avait des circonstances. C'était un type bien, quoi, le Thomas Andrews.
Oui,
hein.
Comme dans le film de James Cameron, on a découvert que c'était un bon gars.
En fait, tout ça était assez exact. C'était un bon gars. Voilà.
16h-18h sur Europe 1. historiquement vôtre.
Oh, c'est toujours un moment déchirant, hein. Mais il...
Mais quel acteur, Stéphane.
Mais il nous faut faire front avec dignité, Mathieu. Historiquement vôtre se termine pour aujourd'hui.
Je militerai pour vous aux Oscars. Oui, Stéphane, mais plutôt que de se morfondre, il nous faut positiver. Comme disait le patron de Segway avant de tester les capacités aériennes de sa trottinette électrique, j'ai hâte d'être demain.
Il aurait mieux fait d'utiliser ses deux mains, lui. Enfin, bon, bref. Moi aussi, Mathieu, j'ai hâte, car demain, nous allons nous consoler de toutes ces morts stupides de l'histoire avec une spéciale immortelle.
Magnifique.
Je vous parlerai du comte de Saint-Germain, de Marguerite Yourcenar, célèbre immortelle, et oui. Quant à vous, Mathieu, j'espère que... Oh, allez, vous ne pousserez pas le vice jusqu'à nous parler de Lara Fabian.
D'après vous, Stéphane.
Oh, si. Je crains le pire.
Oh ben, ça dépend pour les fans de Lara, c'est une bonne nouvelle.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.